Chapitre 7 La confession de Lady Dex. Le lendemain du jour où l'on avait retrouvé le corps de Farrington, Tibby Smith se levait tôt, expédia rapidement son petit déjeuner et se mit au travail. Il avait de nombreux dossiers à examiner avant de se rendre à la préfecture. Il recevait rarement des visites chez lui. Aussi fut-il étonné lorsqu'on lui annonça qu'une dame demandait à lui parler. Il s'embarra vivement de la carte que son domestique lui tendait et il lut « Lady Constance Dex ».« Faites entrer immédiatement, » dit-il. Il se leva pour aller à la rencontre de sa visiteuse. C'était une femme très belle. Il avait entendu dire qu'elle avait une allure virile et des traits durs, mais ses calomniateurs n'avaient compté pour rien la fraîcheur du teint, la flamme veloutée des yeux noisettes et l'exquis modelé de sa face. Au premier coup d'œil, il estima qu'elle devait avoir moins de 30 ans, et il ne se trompait pas de beaucoup, puisque à cette époque de glorieuse plénitude physique, Lady Constance avait tout juste 27 ans. Quoique richement vêtue, elle ne donnait pas, dès la prime abord, une impression d'élégance raffinée, mais cela provenait du maintien si naturel et de l'allure vive de la jeune femme. En fait, sans être elle-même une reine de la mode, elle témoignait toujours d'un goût parfait. Monsieur Smith avança pour elle un fauteuil aux côtés de sa table. Elle sourit et s'assit. « Je crains d'être fort importune, monsieur, surtout à cette heure matinale, mais je désirais beaucoup m'entretenir avec vous des événements extraordinaires qui se sont déroulés ces jours derniers. Je viens d'arriver en ville, c'est-à-dire je suis venu dès que j'ai appris ce qui s'était passé. Monsieur Farrington est, ou plutôt était, de vos amis, n'est-ce pas ?» dit Monsieur Smith. « Oui, nous nous connaissions depuis de nombreuses années. » répondit-elle tranquillement. « C'est un homme remarquable, extraordinairement doué. »« Sa nièce a passé quelque temps chez vous, récemment. »« Oui, elle a couché une nuit après un bal, mais je suis rentré moi-même en auto à Bradley après la danse, et je ne l'ai pas revue depuis que je lui ai souhaité le bonsoir, cette nuit-là. »« Je cherche maintenant ce que je pourrais faire pour elle. » Elle parlait d'une façon délibérée et parfaitement calme, mais on sentait qu'elle s'efforçait de se dominer. Elle poursuivit. « Je crois savoir, monsieur, que vous avez trouvé un petit flacon de parfum qui m'appartient. Monsieur Farrington m'avait écrit à ce sujet. « Oui, madame, cet objet a été découvert chez monsieur Farrington la nuit où deux hommes ont été tués devant sa porte. » « Et vous en concluez que vous étiez chez M. Farrington cette nuit-là. Nous parlons franchement, n'est-ce pas, madame? Je pense donc que vous étiez là au moment des coups de feu, et qu'en les entendant, vous avez fui par la cuisine et la porte de service. » Il la vit serrer les lèvres et il poursuivit. « Mes premières recherches ne m'ayant pas satisfait, je suis retourné sur les lieux le lendemain matin. » Le brouillard s'était déjà un peu dissipé et j'ai découvert des traces évidentes de votre passage. Dans la rue qui se trouve derrière la maison de M. Farrington, 4 autos ont leur garage, mais aucune d'elles n'a des pneus qui correspondent aux marques que j'ai aperçues là. Donc, à mon humble avis, vous avez entendu l'altercation dans la rue, alors vous êtes sorti pour écouter, en non pour fuir. Et quand vous avez vu ce dont il s'agissait, vous avez passé derrière la maison, être remonté dans votre voiture qui vous attendait par là, et avez disparu dans le brouillard. « Quel intelligent détective vous êtes !» s'écria-t-elle. « Ne pouvez-vous m'en dire davantage ?»«
Oh, excepté que vous conduisiez vous-même, que votre voiture était à 2 places et à démarrage électrique. Non, rien d'autre. »
« Alors, dit-elle, vous avez dû aller jusqu'à Bradley, où tout le monde sait que je conduis moi-même une telle auto. »
Non, je n'ai pas pris cette peine, dit M. Smith. Mais ce que je serais curieux de savoir, Lady Dex, c'est ce que vous faisiez chez Farrington à ce moment-là. Notez bien, je vous prie, que je n'ai pas la moindre idée de vous soupçonner d'avoir tué ces deux individus. C'est d'ailleurs la preuve que les coups de feu ont été tirés d'un endroit autre que celui où vous pouviez être. Et si je vous disais que j'ai donné un bal ce soir-là et que je ne suis pas sorti de chez moi? Alors, vous seriez en contradiction avec vous-même, car vous avez bien fait allusion, n'est-ce pas, à un assez long trajet en auto que vous auriez fait cette nuit-là. Elle s'absorba un moment dans ses réflexions. « Oh, je puis vous dire bien les choses que vous ignorez peut-être, » dit-elle enfin. La raison de mon départ subi pour Bradley est très simple. Un ami, ou plutôt l'ami d'un ami, récemment revenu de l'Afrique occidentale, m'a fait savoir juste à ce moment qu'il venait de se rendre à Bradley pour m'y remettre le message d'une personne qui m'est très chère. La voix de Lady Dex tremblait un peu, et quelque comédienne qu'elle pût être, à ce moment, elle disait très certainement la vérité. « Alors je ne voulais absolument pas manquer cette visite, » conclut-elle. « Permettez, » répondit tranquillement le chef de police, « l'ami dont vous parlez, le docteur Thomas Goldworthy, est en effet rentré récemment d'un voyage d'études médicales au Congo. Mais votre récit ne cadre pas avec les faits. Le docteur est arrivé à Bradley le soir avant votre bal et vous l'avez reçu tout de suite. Il vous apportait un coffret qu'il venait de retirer des entrepôts des douanes. D'autre part, ce coffret avait tenté deux voleurs qui s'étaient introduits dans les 10 entrepôts. Cette circonstance avait attiré mon attention car c'est un de mes amis qui s'occupe de cette affaire un peu mystérieuse. Mais pour en revenir à ce qui vous concerne directement, voici les faits. Le docteur Goldworthy vous apporte le coffret à Bradley. Il vous télégraphie son arrivée et vous avez avec lui une longue conversation. Tout cela est parfaitement exact, mais antérieur au bal que vous donnez à votre maison de Londres. « Vraiment, Lady Dex, vous n'avez pas eu une excellente mémoire. » Elle le dévisagea, l'air résolu. « Où voulez-vous en venir ? » demanda-t-elle. « Vous voulez bien ne pas m'attribuer le meurtre de vos deux imbéciles ? Vous ne pouvez guère m'accuser d'avoir jeté M. Farrington à l'eau. Alors, écoutez, puisque vous êtes si parfaitement au courant de mes faits et gestes, je puis bien compléter vos connaissances. Donc, sachez que je fus, il y a quelques années, fiancé avec un homme que j'aimais passionnément. Il s'appelait George Dalton. L'explorateur, oui, dit tranquillement M. Smith. Et il partit pour l'Afrique tout d'un coup, sans me prévenir ni m'avertir d'aucune façon, rompant ainsi notre engagement sans aucune raison plausible. Mes lettres, mes télégrammes, tous les efforts que j'ai faits pour l'atteindre sont restés vains. Durant 4 ans, j'étais absolument sans nouvelles de lui, puis tout à coup, j'ai appris qu'il était mort. Les premiers temps, j'ai cru qu'il avait succombé aux fièvres des tropiques, mais le docteur Goldworthy m'affirme que George Dalton a été empoisonné par quelqu'un qui avait intérêt à sa mort. Elle était en proie à une violente émotion, mais elle se contraignit à continuer. Et durant tout ce temps, non seulement je n'oubliais pas une minute George Dalton, mais je faisais le possible et l'impossible pour découvrir quelle force ennemie l'avait séparé de moi. Il était incapable de déloyauté. Mon amour pour lui ne faisait que croître et me poussait à l'action. Je sais maintenant pourquoi il est parti. Ah, que les criminels ont eu tort de ne pas me tuer avant lui. Lui-même me disait que dans les chasses aux grands fauves, il faut toujours tirer d'abord la femelle, sans quoi Si elle survit, elle poursuit aveuglément le chasseur et venge son mal. Eh bien, monsieur Smith, je puis vous prédire qu'une terrible vengeance se prépare contre quelqu'un en ce moment.
Contre qui ? Elle sourit.
Oh, vous en savez déjà trop, répondit-elle. Je laisse à votre habileté professionnelle le soin de découvrir le reste. Je ne veux pas que vous me priviez de ma vengeance. Tout ce que je vous raconte paraît peut-être horriblement mélodramatique, mais je sais parfaitement ce que je dis et ce que je fais. Vous en apercevrez par la suite. On m'a pris George Lofton et on l'a tué. Le criminel responsable s'appelle Montague Fallock. Et je suis peut-être la seule personne au monde qui ait jamais vu cet homme en chair et en os en sachant ce qu'il était. Elle n'en voulut pas dire davantage et M. Smith était trop intelligent pour essayer d'en obtenir d'autres informations en un pareil moment. Il l'accompagna jusqu'à la porte d'entrée et l'aida à monter dans sa magnifique limousine. « J'espère bien avoir l'occasion de vous revoir bientôt, » dit-il. « Sans mandat d'arrêt. »« Sans mandat d'arrêt, à moins qu'il ne soit libellé au nom de notre ami Fallock. » Il resta un moment sur le seuil, regardant la voiture s'éloigner. À peine eut-elle tourné le coin de la rue qu'un motocycliste sortit d'une impasse latérale et prit la même direction que la limousine. Le policier fit un geste approbateur, heureux de voir que ses ordres étaient fidèlement exécutés. Il ne prétendait rien abandonner au hasard et tous les faits et gestes de Lady Dex devaient être désormais soumis à une minutieuse observation. « Elle n'a même pas parlé de Farrington, » se dit-il en remontant. « On dirait presque qu'elle s'est envie. » Il était 9 heures du soir lorsque Lady Dex, pilotant elle-même sa petite voiture à 2 places, arriva en trombe à Bradley. Aux premières maisons, elle ralentit, prit un chemin qui contournait la petite ville et arriva ainsi devant la cure qui s'élevait un peu en dehors de l'agglomération, au milieu de magnifiques jardins. Elle sauta vivement à terre. Au bruit du moteur, un domestique s'était avancé, mais Lady Dex refusa son aide et monta vivement chez elle, s'y enferma et attendit un moment avant d'allumer. Le village ne possédait pas la lumière électrique, et si Lady Dex n'eut qu'à tourner l'interrupteur pour inonder ses appartements de clarté, c'est à ses amicales relations avec le propriétaire de la maison magique qu'elle le devait. À 3 milles de là, dans un repli des collines, s'élevait la grande bâtisse qui avait été ainsi baptisée par les habitants de l'endroit. On disait qu'elle avait été construite par un homme dont un grand amour malheureux avait brisé la vie et qui voulait y cacher sa douleur jusqu'à la fin de ses jours. D'ailleurs, cette maison se trouvait justement dans un petit vallon où un meurtre avait été commis autrefois, et elle ne déparait pas la triste réputation du lieu. On n'en avait jamais aperçu le propriétaire, et seul son secrétaire et ses 2 domestiques italiens se laissaient voir. Quand il sortait, c'était dans une auto hermétiquement close, et les curieux de Bradley en étaient réduits à espérer qu'une panne de moteur obligeât une fois le mystérieux désespéré à paraître en public. Tout compte fait, les habitants ne lui en voulaient pas. Ils le plaignaient et se sentaient au fond heureux de n'être pas comme lui, car c'était pour le moins un original. Il avait une petite usine électrique qui lui procurait force, lumière et chaleur. On en voyait la haute cheminée s'élever au-dessus des bois. Il n'y employait que des ouvriers italiens qui ne frayaient nullement avec leurs voisins du village, mais vivaient isolés, dépensaient le moins possible, afin de pouvoir retourner au plus tôt dans leur bien-aimé pays natal. Dans cette maison, tout marchait à l'électricité. Il y avait partout tant de mécanismes compliqués et bizarres qu'en somme elle méritait bien son nom de maison magique. Lady Constance Dex était donc une privilégiée. Elle seule n'avait pas été tenue à l'écart. Et le câble souterrain qui reliait la maison magique à la cure n'était pas le seul lien entre elles, car de tous les habitants de Bradley, aucun autre que Lady Dex n'avait pu entrer dans la demeure du mystérieux étranger. Retirée dans ses appartements, elle changea de robe, se fit apporter un léger repas, puis alla à son secrétaire, y prit un petit revolver qu'elle vérifia avec soin et chargea de nouvelles cartouches. Elle le glissa dans la poche de son manteau et redescendit. Sa voiture était toujours devant la porte. « Dites qu'on rentre l'auto au garage, » ordonna-t-elle au domestique. « Je vais à pied chez Madame Jackson. »« Bien, madame. »